Connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et depuis que j'avais 17 ans, ce verset a eu une importance particulière pour moi et ça a été comme un fil à plomb au cours de ma vie et dans mon ministère. Et c'est quelque chose que j'essaye de me rappeler. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette semaine, le carême a commencé. C'est une période de préparation avant la Pâque. Partout dans le monde, différentes confessions se préparent à la Pâque, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour certains, c'est un temps de jeûne, de nourriture, de privation. Moi, je ne sais pas dans votre église si vous le pratiquez ou pas. À une certaine époque, au groupe de jeunes, on avait décidé de se priver de télévision, de Facebook, de choses de ce genre. Et au-delà d'être considéré comme un rite religieux où il faut qu'on se purifie, qu'on gagne la faveur de Dieu, je pense que c'est avant tout un temps pour se consacrer à Dieu, à notre prochain. C'est un temps d'écoute, de repentance, d'engagement. Et le jeûne, c'est une expérience qui est propre à l'humanité dans son ensemble. Et le jeûne biblique a un sens bien particulier. Et pour le saisir, il faut revenir à sa vision anthropologique. Sachez que ma mère a fait sa thèse sur le jeûne, donc je me suis un petit peu inspirée. Et donc, sa vision anthropologique dans la Bible, c'est-à-dire que l'homme est âme de son corps. Le corps est l'expression de l'âme, les mouvements de celle-ci le meuvent, les poussées intérieures du cœur le modèlent, le corps est le moyen d'action de l'être, le corps est le lieu de l'adoration, et il participe à la prière, et ça c'est une citation de André Schlemmer. Et donc, pour exprimer notre humiliation, notre dépendance à Dieu, notre tristesse en l'absence de l'époux qui est Jésus, et notre profond désir de le retrouver, le jeûne a sa place à côté de la prière. Et chacun est libre de prier avec son corps comme il l'entend, de manière individuelle ou collective. Et Blaise Pascal disait à juste titre que... Attendre de cet extérieur le secours et être superstitieux, mais ne vouloir pas le joindre à l'intérieur et être orgueilleux. Alors quel est le sens du jeûne biblique? Ça peut être un moment d'humiliation, de repentance. Ça peut également être un moment étroitement lié à la prière, l'intercession pour une demande. C'est souvent une façon de frapper plus fort à la porte du ciel, pour citer ma mère, pour montrer clairement notre motivation, exprimer notre dépendance corps et âme au Dieu Tout-Puissant. Et c'est aussi bien sûr un temps de pratiquer, un temps de préparation, d'écoute avant de recevoir des révélations divines. Et on voit par exemple Moïse qui, avant de recevoir... les tablettes, les 10 commandements, a eu un temps de 40 jours de jeûne. Et tout au long de l'histoire, les chrétiens ont pratiqué le jeûne à différentes périodes, quand ils traversaient des crises, des difficultés. Ça symbolise vraiment un moment de changement au niveau personnel, spirituel ou communautaire. Et parfois, il y a eu également le jeûne qui a été pratiqué pour des moments où vraiment il y avait une injustice dans le monde. Il y avait quelque chose qui se passait, on avait vraiment besoin de l'intervention de Dieu. Et donc, en accompagnant la prière, les gens collectivement se joignaient par un jeûne. Et par exemple, Esther, c'est un bon exemple dans la Bible où vraiment, ils ont pris ce temps face à l'injustice qui allait se passer pour que Dieu intervienne. J'aimerais vous lire aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'un autre jeûne qui est le jeûne physique... Parce que je vais, pour être honnête avec vous, je ne suis pas une grande fan du jeûne de nourriture. J'ai vraiment du mal, même si j'essaye de le faire. Mais il y a un jeûne que j'aime beaucoup, et c'est le jeûne dont parle Ésaïe 58. Et j'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, Ésaïe 58, du verset 1 jusqu'au verset 8. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. Ah, mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour et ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste. Il n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Et Dieu répond, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès, en querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour comme un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler ça un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Non. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Et le chapitre continue avec beaucoup de promesses. Alors, quel est le contexte de ce chapitre? Il semblerait que les théologiens ne sont pas tous d'accord par rapport au contexte de ce chapitre. Certains disent que c'est comme une parole pour Judas avant l'invasion assyrienne, semblable à celle qui se trouve dans Ésaïe chapitre 1. D'autres pensent que c'est une parole qui est destinée à ceux qui sont revenus déjà de l'exil et qui essayent de reconstruire le pays. Dans les deux cas, on voit qu'il reflète une frustration que peut ressentir le Seigneur face à tous nos actes religieux, les sacrifices, les prières, la louange, l'offrande, la dîme, le jeûne. Et on voit vraiment que Dieu ne peut plus les supporter si notre cœur envers notre prochain est plein de haine, de racisme, de mépris, de dureté, d'injustice. Et j'ai essayé de relever quelques dangers dans notre pratique de notre religion. Alors je sais bien que c'est une foi, c'est pas une religion, mais la Bible souvent parle de religion dans les rites, dans la façon dont on l'exprime, la prière, le jeûne, tout ça. Donc j'ai relevé quelques points, et un des premiers points, des dangers qui peut se passer dans cette pratique, c'est Dieu doit me répondre. Donc ça peut être un des dangers. Et on voit que dans le verset 1 et 3, le peuple qui est assemblé pour prier et jeûner s'attendent à ce que Dieu se manifeste et qu'il leur réponde et qu'il les délivre. Et on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Le ciel est fermé, et alors c'est comme s'ils se révoltent contre Dieu et qu'ils commencent à l'accuser. Alors, ils ont fait comme toutes leurs bonnes actions, toutes leurs œuvres sont bonnes. Ils ont coché sur leur liste toutes les choses à faire et leur piété est parfaite. Ils considèrent comme un dû que Dieu réponde et exauce leurs demandes. Et on voit vraiment que les choses n'ont pas changé, que c'est quelque chose qui est très proche de notre mentalité dans ce monde aujourd'hui. On voit que souvent rien n'est gratuit. Si moi je vous donne quelque chose, j'attends à ce que vous me donniez quelque chose en retour. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous donner un petit exemple de notre vie quotidienne. Quand on va dans la rue auprès des femmes qui sont dans la prostitution, on emmène souvent quelque chose de chaud à boire, des biscuits ou des petits cadeaux. Et c'est vrai que souvent les filles sont choquées quand c'est la première fois qu'elles nous rencontrent. Et il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille à qui on offrait quelque chose qui ne voulait pas le recevoir. Elle dit non, je ne le reçois pas. Elle dit pourquoi tu ne veux pas recevoir? Elle dit non, vous voulez quelque chose en retour. Je sais que vous voulez quelque chose. Personne ne m'a jamais rien donné gratuitement. Si tu me donnes quelque chose, c'est que tu veux quelque chose. Et on a essayé de lui faire expliquer que non, que là, on est des personnes qui aiment Dieu et que le cœur de Dieu, c'est de donner gratuitement et que nous, on veut faire la même chose. Mais c'est quelque chose qui a été difficile pour elle à accepter. Et je pense qu'il va lui falloir encore un peu de temps pour lui montrer que vraiment, on n'attend rien en retour. Mais on voit vraiment que c'est quelque chose qui est ancré dans la mentalité de ce monde. Tout comme l'était pour le peuple de Dieu. Je fais quelque chose pour Dieu. Je fais mes bonnes actions, je fais ma prière, mon jeûne, je vais à l'église, Dieu doit répondre à mes prières. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce danger. Un autre danger, ça peut être d'être centré sur soi-même. On voit que dans ce chapitre, que le problème, c'est la religion qui n'est pas authentique. Et j'aimerais citer Jacques 1, 27, qui dit que la religion authentique est pure aux yeux de Dieu. Le Père consiste à secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse, et ne pas se laisser corrompre par le monde. Et on voit que souvent, notre pratique de notre religion, elle n'est pas centrée sur Dieu, mais elle est centrée sur nous-mêmes. Tout comme le monde est égoïste et égocentrique, souvent la pratique de notre religion en est affectée, et on fait exactement la même chose. On pratique notre religion de façon égoïste et égocentrique. Et là, on voit qu'en apparence, leurs sacrifices, leurs prières sont destinées à Dieu, mais qu'en fait, c'est eux-mêmes qu'ils servent. Et qu'en fait, ces pratiques peuvent parfois donner nous donner le sentiment, nous conforter qu'on est des bons croyants. C'est pour nous donner une bonne conscience. Mais Dieu ne désire pas qu'on agisse pour ces raisons extérieures, mais que ça corresponde à notre cœur. Et souvent, il reproche la fausse religion. Peut-être faire le bien pour se glorifier soi-même, pour se montrer. Et une petite parenthèse, il faut faire attention, je pense, je ne suis pas parent, mais souvent, j'entendais quelqu'un qui disait que souvent, on apprend aux enfants à faire le bien, pas pour le bien lui-même, mais motivé soit par la peur, soit par la fierté. Si tu ne fais pas ça, tu vas être puni. Si tu vas devenir quelqu'un, il va falloir que tu fasses ça et ça. Ou sinon, par fierté, c'est-à-dire que, voilà, il faut que tu deviennes quelqu'un, ou il faut que tu sois quelqu'un de bon, que tu sois respectueux, donc il faut que tu fasses toutes ces choses. Et le verset de Matthieu 12, 7 nous rappelle que c'est la miséricorde que Dieu veut, et pas les sacrifices, c'est pas les choses extérieures, c'est vraiment ce qui sort du cœur et qui est authentique. Un troisième danger que j'ai pu relever, c'est qui retrouve un petit peu, c'est que l'extérieur compte plus que l'intérieur. Et on voit ça dans les versets 4 à 5 de Ésaïe 58. On voit que Ésaïe se confronte un peu au même problème auquel se confrontait Jésus avec les pharisiens, et que les personnes avaient plus confiance à des rituels, même si c'était vide de sens, et qui se concentraient plus sur les apparences que sur l'intérieur. Et on voit vraiment que Dieu ne prend pas plaisir à la pratique de la religion qui est extravagante, qui est extérieure, qui, si ça ne reflète pas un état intérieur. Et Joël 2,13, il disait « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est vraiment un déchirement du cœur. Et on voit vraiment qu'il y a souvent un écart entre nos intentions et les actions, comme si elle était pour le peuple d'Israël à cette époque. Il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas les intentions qui comptent, c'est vraiment les actions et les actions qui viennent du cœur. Et je vous encourage à vous examiner aussi et à voir, parce que je pense que souvent, on fait bonne façade le dimanche, on essaye de paraître bien, et que peut-être dans nos familles, dans nos lieux de travail, peut-être à l'école, à la fac, on est quelqu'un de complètement différent. Et c'est important qu'on soit authentique dans notre vie de tous les jours. J'aimerais vous lire Amos 5. Versets 21 à 24, qui dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et vos voix engraissées que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son des luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui à jamais ne tarit. » Et un autre verset de Jacques 2, 14 à 17, dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Mais il en ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Le dernier point par rapport au danger du jeûne, de la pratique de la religion, c'est... Qui se retrouvent tous, ils se regroupent un petit peu. C'est vraiment détacher la vie spirituelle à la vie de tous les jours. Et on voit un verset qui précisément souligne le fait qu'ils opprimaient leurs ouvriers. Vous jeûnez, mais vous opprimez vos ouvriers tous les jours. Et vous vous livrez à la violence et aux disputes. Donc en fait, ils se comportent bien à l'église, mais la semaine, au travail, tout ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens au monde qui ont l'impression de vivre leur foi en ce qui concerne les réunions, leur temps personnel avec Dieu, et ils oublient complètement qu'ils doivent être la lumière et le sel du monde dans la vie de tous les jours, au-delà des murs de l'église. Et le problème d'opprimer ses ouvriers, c'est pas un problème qui est strictement dans le contexte d'Ésaïe, mais c'est un problème avec lequel on se confronte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'à l'heure actuelle dans le monde, il y a 30 millions d'esclaves, à peu près. C'était les derniers chiffres qui ont été donnés. Ça fait à peu près la moitié, si je ne me trompe pas, la moitié de la population de la France. Et ça ferait l'équivalence également de la population de la Roumanie, Bulgarie et Moldavie ensemble. Et des personnes qui ont étudié bien l'esclavage, qu'il y a plus d'esclaves à l'heure actuelle qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité, et bien plus qu'il y en a eu même à l'époque de l'esclavage transatlantique. Et cet esclavage prend différentes formes. Vous en avez sûrement entendu parler, le travail d'enfant, la prostitution forcée, comme je vous en ai parlé, la mendicité forcée, commission de délit, les enfants soldats. Il y a différentes formes d'esclavage. Et ce n'est pas qu'à l'extérieur de la France, ce n'est pas que dans les pays pauvres, c'est ici. Et nous, on voit en Roumanie que beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes sont leurrés par des offres meilleures d'emploi à l'extérieur, dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Hollande. Tous ces pays-là, et on leur offre des offres de travail qui pourraient être tout à fait honnêtes, mais qui ne le sont pas, et elles se retrouvent, les femmes utilisées dans l'industrie du sexe, à être forcées dans la prostitution ou dans la pornographie. Et souvent, les hommes sont forcés dans le travail. Donc, ils sont obligés à travailler dans des champs, en tant que domestiques, en tant que différentes choses. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de liberté. Il y a souvent des abus, de la violence et tout ce qui s'ensuit. Et parce qu'on est dans la région parisienne, je voudrais juste vous souligner qu'à Paris, on estime environ 7000 femmes dans la prostitution, officiellement. Et que 9 prostituées sur 10 auraient un proxénète, ce qui nous fait quand même réfléchir par rapport à le libre choix. Et les chiffres officiel du ministère de l'Intérieur nous dit qu'il y aurait 20 000 personnes prostituées officiellement en France, dont 2 tiers sont des personnes d'origine étrangère. Alors, c'est vrai que ça fait réfléchir, et que ces chiffres-là représenteraient seulement un quart, même pas un quart, 15% de la prostitution en France, parce qu'en fait, c'est le haut de l'iceberg, c'est la prostitution qui est visible dans la rue, et en fait, qui n'inclut pas tout ce qui est caché, par les petites annonces, dans les appartements, dans tous ces lieux auxquels on n'a pas accès. Et ce qui est bien plus triste, c'est qu'il y a une étude, l'Association contre la prostitution des enfants dit qu'il y aurait environ 10 000 enfants qui font la prostitution en France. Alors voilà, bon, ben, c'est une des injustices, entre autres, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, vous en connaissez sûrement. Par rapport à toutes ces injustices, ma question est, qu'est-ce que fait l'Église par rapport à ces crimes? Est-ce qu'elle élève sa voix? Et au-delà de l'Église, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'individus face à nos responsabilités et nos choix? C'est vrai que c'est un problème qui est tellement large, on pourrait se dire, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, je ne suis qu'un homme, c'est pas mon appel, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a deux choses que j'aimerais juste, une petite parenthèse, où on a un choix à faire. Et un, ça serait ben, comment est-ce qu'on choisit nos produits quand on sait que certains produits qui ont un prix qui est peu élevé sont produits dans des conditions où il y a un abus de la part des travailleurs et où le salaire que reçoivent ceux qui font le produit est complètement dérisoire et que les gens n'arrivent pas à vivre correctement. Donc qu'est-ce qu'on fait nous face à ce choix dans notre consommation de tous les jours? Et une deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait dans la matière de choix dans ce qu'on regarde, par exemple dans la télévision, au cinéma, sachant que notre génération n'a jamais consommé autant de pornographie que n'importe quelle autre période de l'histoire, et que la pornographie est très liée à la prostitution et au trafic humain, l'exploitation de personnes, et que souvent les femmes qui sont piégées dans l'industrie du sexe et qui sont forcées à faire ça sont aussi forcées à faire et à produire du matériel pornographique. Alors bien sûr, on est dans une église, je suppose que personne mais internet, malheureusement, les téléphones, tout ça, ça fait que ça devient très accessible et que c'est un réel danger même dans les églises. Alors quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Si ce sont tout ça des choses qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui plaît vraiment à Dieu? Alors, j'ai noté 3 points. Et un, ce serait l'appel à être authentique. Et ça, vraiment, on l'a vu, que Dieu a horreur des choses qui sont faites faussement. Il désire le cœur. Il désire qu'en fait, ça soit l'intérieur qui influence notre extérieur. Et que ça ne soit pas juste une carapace religieuse qu'on porte. Et que la vie de tous les jours, ça reflète aussi notre foi. Que notre foi soit authentique et qu'elle ressorte dans tous les domaines de notre vie. Et une petite illustration pour ça, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que fait mon mari. Mon mari est directeur à Teen Challenge. C'est un programme qui s'occupe de jeunes qui essayent de sortir de la drogue. Et donc pendant une année, ils vont dans un centre où en fait ils vont ils vont faire toutes sortes d'activités, de se lever le matin à une certaine heure, se coucher à une certaine heure, ce qui est très difficile pour quelqu'un qui a vécu dans la drogue, faire du travail, lire sa Bible, participer à des cours. Donc vraiment, il y a une discipline. Et il y a beaucoup de jeunes qui partent dans ce centre avec l'idée que le fait qu'il y ait de la discipline et qu'il y ait des règles, ça va les aider à se laisser de la drogue. Donc en fait, ils pensent que tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire nos habitudes, ce qu'on fait, ça va influencer l'intérieur et qu'ils n'auront plus envie de drogue quand ils vont sortir de là. Teen Challenge a toujours dit ce qui est important et ce qui, vraiment ça, qui change les gens, c'est leur relation avec Christ. Et en fait, dans le programme, ils insistent beaucoup sur la partie spirituelle. Alors, bien sûr, on peut forcer personne à croire, mais ce qu'on voit après des années d'expérience, c'est que les jeunes qui ont refusé la partie spirituelle et qui ont dit « moi, je participe au programme strictement pour avoir cette discipline, mais Dieu, c'est pas pour moi », quand ils sortent, de grandes, grandes chances sont qu'ils vont retomber dans la drogue après une période assez courte. Et on voit vraiment que les gens, les jeunes qui ont vraiment été transformés et changés, ce sont les personnes qui se sont laissées changer de l'intérieur. Ils ont laissé Dieu travailler à l'intérieur de leur cœur et de leur intérieur a coulé les changements dans leur vie. Et donc, face à la tentation, face aux habitudes, au monde réel, après, ils arrivent à résister. Parce que le changement, il est d'abord à l'intérieur. Et après, il y a les habitudes, il y a la façon de parler, il y a toutes ces autres choses qui, bien sûr, en bénéficient aussi. Mais tout d'abord, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, un appel à être authentique. Et la deuxième chose que j'ai relevée par rapport aux jeunes, bien sûr, c'est l'appel à la justice. Et on voit plusieurs points ici. On voit détacher le lien de la méchanceté, délier les courroies de la servitude, renvoyer libres les opprimés, briser toute espèce de joug. Et là, on voit que c'est un appel à des actions, à arrêter de faire le mal. Donc en fait, j'ai un petit peu séparé, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais il y a certaines actions où en fait, on demande de faire certaines choses pour aider les autres. Là, ici, on demande d'arrêter de faire certaines choses. Donc arrêtons de faire le mal, arrêtons d'opprimer les gens, et ça pourrait se référer d'une certaine façon au péché par commission. Alors je ne sais pas si c'est correct ou pas, c'est un petit peu ce que j'avais le sentiment. Et j'aimerais m'arrêter un petit peu sur l'idée de justice dans la Bible. C'est, dans la Bible, la justice, c'est un sujet qui est très large parce que Dieu en lui-même, il est juste. Et il y a différentes façons dont il exprime cette justice. Mais moi, j'aimerais m'arrêter sur la partie la justice sociale. J'aimerais vous lire Psaume 82, verset 3, qui dit « Défendez le faible, l'orphelin, soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable. » Et un autre verset dans Matthieu 23 qui dit que « Malheur à vous les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et si vous faites attention dans tous les versets que je vous ai dit, ces mots reviennent tout le temps, justice et miséricorde. Et la loi mosaïque dans l'Ancien Testament disait qu'en fait, les esclaves devaient être libérés normalement la 7e année, après 7 années. Mais est-ce qu'elle était vraiment respectée dans ce contexte? On peut se poser la question. Est-ce que le peuple de Dieu abusait les esclaves et rendait impossible leur libération? Et peut-être que c'était le contexte de Ésaïe 58. On peut définir l'injustice par l'oppression, par le gain de richesses, en exploitant d'autres êtres humains ou en les empêchant d'avoir des chances égales de gagner des richesses pour eux-mêmes. Et qu'est-ce que c'est la justice dans la vie? Donc on a vu ce que c'est l'injustice. Qu'est-ce que c'est la justice? La justice, c'est ce qui est juste. Pas une super définition, mais ce qui est normal. C'est un état normal, la justice. Et le mot « shalom » ne veut pas seulement dire « paix » comme on l'entend, mais c'est aussi un mot qui définit la justice, le salut, l'unité entre corps, âme et esprit. Ça peut parler de sécurité, de la restauration des relations, relations brisées. Les relations brisées, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être la relation entre hommes, bien sûr, qui sont brisées, mais aussi la relation avec des systèmes comme l'économie, la loi, les territoires, les ressources, le gouvernement. Et ça peut être également, bien sûr, restaurer la relation brisée avec Dieu. Parce que la justice restaure notre culte et elle permet une adoration authentique. La justice aussi, elle peut signifier délivrance, victoire, prospérité, mais pas pour un, pour tous. Et pourquoi est-ce que Dieu valorise tellement la justice? Le fondement de la justice de Dieu est le fait qu'il crée le monde et que cela était bon, comme on voit dans la Genèse. Il a créé les ressources nécessaires pour tous, parce que Dieu aime sa création et il désire son épanouissement. Et toute injustice fait souffrir la création et attriste le Créateur. Et nous sommes appelés à pratiquer la justice pour le pauvre, pour l'opprimé, parce qu'il compte aux yeux de Dieu, leur Créateur. Et on va regarder quelques petites minutes, un petit film, c'est De Kourou, c'est un chanteur qui est chrétien, d'origine suisse. C'est un petit peu dur, mais c'est un exemple de quelqu'un qui a compris ce que ça voulait dire, l'appel à la justice de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a le courage de parler contre l'injustice.
De Moldavie, d'Ukraine ou d'ailleurs. Elles cherchaient du travail, un avenir. Abusées, trahies, elles se sont retrouvées prises au piège dans les griffes des marchands d'esclaves. Ça se passe chez nous. On ne peut pas continuer à l'ignorer.
D'échapper à ce destin trop dur qui avait condamné leur mère derrière le mur. Elle rêvait d'évasion à mille lieues de croire à la pire des prisons, au pire des cauchemars
de ton prochain. Et au début, j'étais un petit peu bloquée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter par rapport à tout ça? C'est assez clair. Et en y réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que la faim et la soif, c'est pas seulement la faim et la soif physique. Et bien sûr, cette partie est importante, mais c'est aussi, bien sûr, la faim et la soif spirituelle. Et je pense qu'ici, l'Église a un rôle très important. Et il y a bien sûr aussi le sens émotionnel. Tout le monde a soif. Faim d'amour, se sentir aimé. On dit que c'est le plus grand besoin de l'homme, c'est d'aimer, de se sentir aimé. Pour citer le Moulin Rouge, qui n'est pas la Bible, mais... Et j'aimerais vous donner un petit témoignage par rapport aux enfants. En Roumanie, quand je suis arrivée au tout début, je suis allée dans les hôpitaux. Il y a des sections spéciales où les enfants abandonnés sont mis dans une chambre. Et j'ai eu l'occasion de servir un petit peu là-bas. C'était pas trop mon truc, les bébés, et après j'ai renoncé. Mais j'étais assez choquée parce que les gens disaient, ils disaient souvent que les enfants qui n'étaient pas pris dans les bras, qui n'avaient pas le contact physique avec une personne, souvent se laissaient mourir ou alors avaient des séquelles psychologiques très importantes. Et C'est vrai que dans les hôpitaux, cette association, bon, elle a réussi à intervenir, mais souvent, en fait, les enfants n'étaient jamais pris dans les bras. On leur mettait un coussin et le biberon, et c'était comme ça qu'on les nourrissait à la chaîne, quoi. Et parfois même le week-end, ils racontaient qu'il y avait des problèmes et qu'il n'y avait pas assez de staff pendant le week-end. Et donc, du coup, les enfants, on ne leur changeait même pas leur couche. Ce qui faisait qu'en fait, quand tu arrivais le lundi, il y avait une odeur épouvantable qui sortait de la chambre parce que tout le week-end, les enfants étaient restés avec leur couche pleine. Et c'est vrai que j'ai pu constater sur de nombreux enfants les effets absolument épouvantables de ne pas avoir été pris dans les bras. De ne pas avoir senti ce que c'est cette chaleur. Et c'est également quelque chose par rapport à ce qu'on travaille auprès des femmes qui est très important, parce qu'en fait, les jeunes filles qui tombent souvent dans les proies de ces trafiquants, ce sont des jeunes filles qui ont besoin d'être aimées et qui ne reçoivent pas cet amour dans leur famille. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent « oui, c'est les filles de l'orphelinat, c'est elles qui vont devenir prostituées ». C'est vrai qu'il y a une partie qui arrive, mais ça, souvent... Et les chiffres de l'Agence nationale contre le trafic humain nous montrent qu'en fait, la plupart des jeunes filles qui tombent proie à ces trafiquants sont des jeunes filles qui ont des parents. Alors la question, c'est pourquoi ? Et en fait, un jour, j'ai regardé une vidéo d'un trafiquant, d'un proxénète qui parlait aux parents, et c'était assez choquant. Et il disait, vous les parents, je vous remercie de ne pas avoir fait votre travail. Vous passez pas de temps avec vos enfants. Vous discutez pas avec eux. Vous ne prenez pas soin d'eux. Et moi, je leur offre toutes ces choses que vous ne leur offrez pas. Je leur offre du temps, je connais leurs besoins, je connais leurs rêves, je connais leurs envies. Et je leur offre toutes ces choses. Et elles, en retour, elles font ce que je leur demande. Et elles disent, je vous remercie, parents, de ne pas faire votre travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. Et qui nous fait réfléchir par rapport au rôle des parents et... au fait que ce n'est pas une tâche qui est simple. Et en Roumanie, on se confronte beaucoup avec une immigration vers les pays occidentaux. Et il y a beaucoup de familles qui sont complètement séparées parce que les papas, les mamans vont travailler en Espagne, en France, en Italie. Les enfants restent à la maison avec un voisin, avec un grand-père, avec une grand-mère, parfois seuls. Et en fait, on a toute une génération d'enfants qui grandissent sans parents. Alors même si les parents ont de bonnes intentions de leur amener, de leur envoyer à de la nourriture, de leur envoyer l'argent pour vivre, leur besoin fondamental d'être aimé n'est pas rempli et donc souvent ils tombent dans la proie de ces jeunes hommes qui viennent et qui offrent cet amour qui est bien sûr conditionnel pour ces jeunes filles. Après on parle de donner un habit. Alors au-delà de donner un habit physique, c'est vrai que les filles ne sont pas toujours très habillées, celles qu'on rencontre dans la rue. Mais c'est aussi donner un habit de dignité. Ces jeunes filles nous racontent souvent qu'en fait, elles se sentent tellement méprisées par les gens qui les entourent. Peu importe que ce soit des chrétiens, des pas chrétiens. Souvent, elles reçoivent des insultes dans la rue. Souvent, les gens ouvrent leurs fenêtres et leur balancent des choses, des canettes, de la poubelle, n'importe quoi, ils leur lancent dessus. C'est vrai qu'en fait, c'est des femmes qui n'arrivent plus à se voir avec dignité. Et il y avait une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques mois qui était une jeune fille magnifique, absolument magnifique. Elle avait 16 ans. Et elle me disait, je me sens comme un torchon sale. Je me sens salie. Je sais que... Mais personne ne pourra jamais me laver de ma honte, de ce que je fais. Elle dit, pour moi, c'est fini. Je suis sale. Et je pense que en tant que chrétien, on a un rôle à jouer là-dessus, parce que même dans notre façon de voir, de discuter de ces femmes, comment on parle entre nous, directement à elles, peut-être qu'on n'a pas tous des interactions, mais c'est notre devoir peut-être de les habiller avec un habit de dignité et de voir la femme qu'elle est, l'homme qu'elle est, au-delà des apparences. Et je vous encourage à les aider à voir qui elles sont vraiment. Nous, on refuse de dire prostituées, on dit que ce sont des femmes dans la prostitution parce que ce n'est pas leur identité, c'est ce qu'elles font, mais ce ne sont pas des prostituées. Et donc, je vous encourage. Quand vous parlez d'elles, si vous avez l'occasion de rencontrer, essayez d'aller doucement avec nos jugements et avec notre morale, même si c'est difficile. La dernière partie, elle dit ne vous détournez pas de votre prochain. Nous, on travaille aussi avec des travestis. Et honnêtement, quand j'ai rencontré les travestis la première fois, c'est vrai que c'était vraiment bizarre comme expérience. Et j'ai beaucoup de bénévoles qui me disent « j'ai vraiment du mal avec les filles, ça va, mais quand on a face, face à face un travesti, c'est vraiment bizarre de sentir de la compassion, de l'amour, de ne pas le juger. Et on voyait vraiment que les filles étaient, nos bénévoles étaient résistantes. Et c'est pas facile. C'est pas facile de pas se détourner de notre prochain, de pas se détourner de ces gens-là quand on se pose toutes sortes de questions, quand. Mais je pense que le cœur de Dieu est le même pour eux aussi. Et qu'il faut demander, il faut prier que le cœur de Dieu qui est brisé pour ces personnes-là, qui sont aussi en souffrance, qui ont aussi eu des expériences assez difficiles dans leur enfance, qu'on puisse avoir ce même cœur et qu'on puisse montrer la même compassion que lui leur montre. Et je m'excuse si on a encore une petite vidéo à montrer qui est, je pense, importante, qui vraiment montre la compassion de Dieu pour ces femmes et comment cette compassion et cette acceptance les transforment. Ça dure 15 minutes, mais je pense que ça en vaut le coup.